Parlons Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
RTVFM.
Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de sport RTV Sport. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et on a un invité de marque que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais j'ai mes amis animateurs avec moi. Tout d'abord Valérie. Salut Valérie.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tout le monde.
Comment vas-tu?
Très 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 bien, merci.
Très bien, ça se voit.
Voilà. Bon. Oui.
Et Alexandre qui revient de l'Espagne.
Salut. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous.
Comment vas-tu?
Ça va très très bien. Et
ouais.
Vous?
Je
vous ai pas trop manqué.
Si,
ça va.
Si, tu nous as manqué pour le rugby.
Bah ouais, ouais, surtout que Clermont avait gagné
donc. Voilà.
Et que Carpentras avait perdu.
Ouais, mais ça. C'est
oui,
bon.
Mais bon, ça c'est.
C'est surtout pour Clermont-Ferrand parce que pour une fois qu'il gagne.
Pour une fois. Ouais.
C'est ça. Bon, ça s'est bien passé.
Ouais, ouais, nickel.
Alors tu as été où exactement?
J'étais à Séville. On a dormi à Carmona et on a passé les journées à Séville.
Ah oui, c'est vraiment et dans le bas de l'Espagne quoi.
Ouais. Pendant les périodes de feria et c'était très sympathique.
Ah bah ça, on l'imagine.
Ah oui.
Avec un temps magnifique, je suppose.
Effectivement, 31 degrés toute la semaine.
Ah, mon Dieu. Bah c'était... nous, il a fait beau, beau aussi. Hein.
Oui.
Oui, je sais, mais bon, pas pareil.
Bon, notre technicien, Bruno. Salut Bruno.
Bonjour à tous, salut.
Ça va?
Ça va.
Bon. Et donc, notre invité d'honneur, François Réchy, connu sur Mazan et qui est énormément impliqué dans le milieu associatif mazanais et même de la COV. Comment vas-tu, François?
Ça va bien, je vous remercie. Bonjour à tous et bonjour à toutes.
Voilà, donc tu es secrétaire du Sud-Raid Aventure de Mazan et c'est l'objet de l'émission d'aujourd'hui, le Rallye Raid. Tu es également président de l'Office Municipal des Sports de Mazan.
Co-président.
Co-président.
On est deux.
Tout à fait.
Corrigeant.
Voilà, c'est à deux, on va beaucoup plus loin que tout seul.
Tout à fait.
Bon, alors avant de parler donc de Rallye Raid, on va parler un petit peu des résultats locaux. Ma petite Valérie.
Oui, il y en a quelques-uns. Donc, je vais commencer avec le basket, avec l'ABC Carpentras. En U18 garçon, Carpentras se déplaçait à Cavaillon et s'est incliné sur le score de 39 à 42. En U13 filles, Carpentras recevait Sorgues. Et là, Carpentras donc, a largement gagné 47 à 25. En senior filles, Marseille donc, recevait Carpentras. Et Marseille l'a emporté 48 à 45. Je continue avec du motoball. Il y avait le championnat élite 1, troisième journée. Robion donc, recevait Carpentras 1 à 3. 3 recevait Neuville 2 à 3. Monteux se déplaçait à Camaré 2 à 1. Au classement général, Neuville est premier avec 12 points, suivi de Monteux. Suivi ensuite de 3, Robion, Vaugecourt et Carpentras à 5 points. Donc du 3e au 6e, au 5e, ils sont tous à 3 points.
Dans un bouchoir de poche.
Voilà, tout le monde donc... Ça ne fait que commencer, hein, c'est que la troisième journée. Hein. On va aussi donner les résultats de la course pédestre la Gogagline, qui était à Malemort du Comtat, avec nos amis. Donc, c'est Benoît Bigot, qu'on a reçu, qui l'a emporté donc, au 25 km en 2h, 3 minutes et 53 secondes. Chez les filles, il y a eu Charlotte Lantenois, hein, qui est arrivée première. Et au 12 km, c'est Brahim El Housseini, hein, que l'on connaît bien. Pour gagner pas mal de courses, qui l'a emporté.
Et toi, François, tu connais Charlotte?
Oui.
Ah, elle est de Mazan, non?
Elle était de Mazan, oui.
Ah, c'est pour ça.
Oui, ouais. J'ai eu son.
J'ai vu un grand sourire quand elle a quitté Charlotte.
Ah, j'ai eu son frère au foot, ouais.
D'accord.
Benoît.
Bah, tu vois, hein, le monde est petit.
Mais ouais, ouais. Allez, je continue avec du foot. On va commencer par la DH féminine, donc la division honneur. Monteux se déplaçait à Marseille et l'a emporté, donc 4 à 1. Monteux est toujours deuxième hein, derrière Nice, mais à 3 petits points. Voilà. En Ligue Méditerranée régionale 1, Perne recevait Fréjus Saint-Raphaël et Perne l'a emporté 3-1. Perne est septième au classement général avec 31 points, très 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 loin derrière Côte Bleue qui est premier avec 52 points. En district Rhône-Durance en D1, Perne recevait Nove 5-1. Carpentras, lui, US Avignon, je n'ai pas les résultats, mais bon, ça a été omis. Donc là aussi, mais ça fait rien, je voulais dire qu'ils ont quand même joué. Et Carpentras est quand même troisième avec 61 points. Et Perne est dixième, lui, avec 40 points. En district toujours, hein, Rhône-Durance, en Poule B, Monteux-Saint-Didier, 6-0. Gravaison étoile d'Aubune 1-2.
Elle s'est pas attardée sur ce score. Hein.
De suite, 6-0. Oh, allons passer à la
suite. Vous avez vu un petit peu comme j'ai été rapide et volontairement.
Ah ouais.
Donc voilà. Au classement général, l'étoile d'Aubune est 5e avec 62 points, à égalité avec Monteux qui est 4e. Et aussi, bah oui, égalité. Et Saint-Didier est 11e. Il n'est pas dernier, tu vois. Il est 11e sur 14e avec 39 points.
Oui.
Donc, bon. ça brûle quand même. Hein.
Ça brûle, oui, mais bon, il est 11e.
Ah, c'est chaud bouillant. Hein. C'est vrai que Saint-Didier, pour l'instant. Hein.
Oui, c'est vrai que c'est une année, on va dire, mauvaise. Ouais, très mauvaise année pour Saint-Didier.
C'est à combien de la relégation, là des trois derniers?
Ils sont pas
trois
loin,
derniers,
hein.
Ben non, il est à. Oh, ils ont 4 points.
C'est pas énorme, hein, 4 points.
Ouais, c'est chaud.
4 points, c'est pas énorme.
C'est chaud.
Il reste 4 matchs.
Là, on met la pression à Valérie.
4 points, 4 matchs.
Non, mais non.
Pour ceux qui nous écoutent, quand même, Valérie est de Saint-Didier. C'est pour ça qu'on la charme un petit peu, parce que c'est vrai que.
Ben oui,
beaucoup ne le savent pas, donc tu es de Saint-Didier.
Ben oui. Ah ben on est un peu chauvin. Hein.
Ah bah totalement.
Voilà. En Détroit.
Mais il faut l'être. Hein.
Allez, en Détroit, poule A.
Pour supporter Saint-Didier,
il
faut qu'être chauvin.
Hein. Je vais continuer rapidement là aussi. En oui, Détroit, poule A, Monteux Saint-Didier, 6-2. L'Oriol Valréas, 1-5. Camaré, étoile d'Aubune, 6-0.
Il faut que Saint-Didier change de sport.
Hein. Ils ont pris 12 buts en 2 matchs quand même. Deux équipes.
Deux équipes, oh là là.
Donc au classement général, Monteux est 4e avec 67 points. L'étoile d'Aubune est 9e avec 49 points. Tu vois, c'est très loin. L'Oriol, 33 points. Et Saint-Didier, 30 points. 13e et 14e, quoi. Les derniers. Donc ben. Voilà. En poule B, Piolenc-Sarian, 0-0. Et Caron Mondragon 6-1. Au classement général, Carpentras est 3e.
Caron. Non, mais déjà le match est fou quand ah ouais. Caron contre Mondragon.
Caron est quand même 4e avec 66 points.
Mais c'est bon.
À un petit point du premier. Voilà, parce que le premier, le deuxième et le troisième, ils ont le même nombre de points, 67 points. Donc là, c'est très serré pour
ah bah
les
oui.
premières places. Même Caron hein, peut prétendre à la première place.
Bah, bien sûr, bah, il va être premier.
On y croit. Hein.
Même Caderousse.
À fond.
Et Sarian est 11e avec 42 points. C'est chaud quand même. En D4, donc pour le A, Serre-Mirabel 3-0. Vaison-Autre-Provence 2-1. Au classement général, Serre est 9e avec 45 points. Donc lui, il est loin quand même des premières places. Hein, très loin. Et enfin, en D5, pour le A, Caron-Gordes 1-3, donc Caron a perdu.
Ouais. Oui. Mais c'est la hauteur, c'est la... ils n'ont voilà. pas l'habitude de monter en altitude.
Piolenc-Sarian 3-0.
1-3, c'est quand tu perds à domicile. Hein.
Au classement général.
Ah oui, c'est pas
au classement...
ah oui, mais... Pardon, non.
Au classement général, Caron
on a besoin
toujours...
de vacances, j'ai besoin de vacances.
Caron est toujours premier avec oui. 62 points. Et Sarian est 9e avec 37 points. Bon, ils ont fait une petite contre-performance. Hein,
ouais, non, mais j'ai besoin de prendre des vacances en fait. Voilà. Je suis persuadé qu'ils se déplaçaient à Gordes, mais non, ils recevaient Gordes.
Ils recevaient
en fait.
Gordes. Donc, oui. Ouais. Caron, Gordes.
Oui, bah, oui, je sais. Oui.
Donc, ils ont fait une petite contre-performance.
Tout à
voilà.
fait.
Voilà.
C'est bon?
C'est bon, pas d'autres résultats.
Bon, on va pouvoir donner les résultats nationaux. Alors, vous êtes au courant, il y avait le bol d'or.
Oui.
24
oui.
heures du Mans.
Oui, oui.
Moto.
Oui, mon père l'a regardé.
C'est... Regardez, ouais.
Bon,
c'est magnifique course.
C'est au Ricard, non
non, c'était au Mans.
C'était au Mans, d'accord.
C'était au Mans. Et en fait, c'est Honda qui a gagné cette année. Et il faut savoir qu'il n'avait pas gagné depuis 2006. Donc, très, très belle performance donc, de la numéro 5. Avec, donc, ils sont toujours par 3 pilotes. Là, les pilotes qui ont gagné, c'est Freddy Fauré, Alan Tetcher et Joss Hawk. Donc, une très, très belle victoire. Et Honda s'offre même un doublé grâce à la numéro 111 donc, du Honda Endurance Racing, deuxième devant la BMW numéro 13. En Superstock, c'est la Yamaha 36 qui devance la 96. Et en troisième position, c'est une Suzuki, la 72. Alors par contre, la course a quand même été marquée par de nombreuses... Qu'est-ce qu'il y a ?
Accident.
Ouais,
continue.
Non, tu me perturbes, Bruno. Qu'est-ce que...
Mais continue.
Ah bon. D'accord, donc nombreuses chutes, donc c'était surtout le dimanche matin. Arrêtez de me regarder comme ça. Donc voilà, et c'est la Yamaha qui a commencé à chuter en fait, et elle était en course, elle était en tête de la course, désolé. Et sinon après, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement ? Le samedi, le premier événement, c'est la chute également de la Kawasaki numéro 11 qui était en tête. Et en fait, elle a laissé la place à la Yamaha numéro 7. Voilà, je laisse la main parce que... Tout le monde se moque de moi, je ne sais pas pourquoi. Mais franchement, vous n'êtes pas sympa, quoi.
Bah, on fait comme toi, hein. Tu t'es bien moqué de moi.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Mais eux, non, c'est pas de moi, non, c'est surtout de...
Je pensais qu'il y avait du fair play entre nous, les mecs, mais même pas, tu vois. Bruno, de suite...
Et t'as même pas parlé du Grand Prix de vitesse, Grand Prix des Amériques.
Bah, parce que j'allais te laisser faire.
Ah, d'accord.
Et alors ?
Eh ben, c'est Marquez, donc l'Espagnol Marc Marquez qui l'a emporté.
Bien sûr. Hein,
bah. Et notre Vauclusien Johan Zarco a fini sixième.
Voilà. Ah ouais.
Ouais, ouais.
Mais Zarco, il a un peu de mal, hein, parce que lors de la dernière course, ou l'avant-dernière course, il a toujours été devant. Et aux 3-4 derniers tours, il s'est fait doubler, il s'est retrouvé à la cinquième place. Il a un peu de mal avec la pression, le petit Zarco.
Non, c'est peut-être. Ça vient peut-être de sa conduite et de l'usure des pneus. Hein.
Et peut-être ça.
S'il attaque pendant toute la manche et qu'en fin de, fin de manche, il a plus rien, il n'a plus de gomme, donc ouais. Il prend moins de risques. Hein.
Parce que pendant toute la course, il était devant et après, il s'est fait griller par...
Mais je ne sais pas quel âge il a, Zarco. Mais je vois Marquez à 25 ans. Je pense aussi que peut-être qu'en suivant l'âge, il faudrait que je regarde Zarco, l'âge qu'il a. Mais Marquez prend peut-être plus de risques.
T'en penses quoi, Bruno ? Il a quel âge, Zarco ? T'as vu, il était mal éclaté de rire, il ne peut même pas répondre. C'est incroyable. Allez, on fait une petite pause. Alors par contre, juste avant la pause, je voudrais quand même être sérieux deux secondes. La musique que je vais donner, en fait, c'est pour nous rendre hommage à Avicii, parce qu'il nous a quittés vendredi à la suite d'une longue maladie. Et la dernière chanson, en fait, c'était avec Rita Ora. Donc voilà, en hommage à Avicii, cette musique, c'est pour lui.
It's you and your world and I'm caught in the middle. I cut the edge of the knife and it hurts just a little. And I know, and I know, and I know, and I know that I can't be your friend. It's my head and my heart and I'm caught in the middle. My hands are tied but not tied.
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, après cette pause musicale et puis l'hommage donc à Avicii, hein, 28 ans, il nous a quittés malheureusement. On va continuer avec les résultats nationaux.
Oui.
il n'y avait pas de top 14.
Non, il n'y avait pas de top 14 parce qu'il y avait la Coupe d'Europe avec notamment la demi-finale entre le Racing et le Munster. Et le Racing s'est imposé 27 à 22.
Ah, c'est bien.
Grâce à une très bonne première mi-temps.
Oui, voilà. Pas grâce à la deuxième en tout cas.
Mais ils se sont qualifiés, donc félicitations à eux quand même. Ouais. Parce qu'ils sont en finale pour la deuxième année consécutive.
Ouais.
Et c'est quand même pas mal.
Et ils vont jouer en Espagne.
Ce qui serait bien, c'est de la gagner cette fois-ci. Mais sinon, c'est une très bonne nouvelle pour le rugby français.
Ouais.
Donc voilà, ça c'était la petite nouvelle. Et là maintenant, on va passer.
C'était les seuls en championnat.
Après, il n'y a pas eu de championnat.
Non, mais en Coupe d'Europe.
Oui, nous, on est les seuls. On va affronter le Leinster. Mm. Ils vont affronter le Leinster, c'est ça.
Toutes les autres équipes françaises ont été éliminées.
Et oui, parce que la dernière équipe française, je crois que c'était Clermont ou Toulon quand ils sont affrontés.
En quart de finale.
Oui, Toulon quand ils affrontaient le Racing, ouais. Du coup.
Ouais. Bon. Okay.
Vous n'avez même pas regardé le match ?
Non.
Et non, moi, je n'ai pas eu le temps.
Lui, il n'a pas eu le temps et moi, je travaillais. Et puis,
une deuxième
Bruno,
mi-temps,
il travaillait.
Une deuxième mi-temps très, très, très favorable à l'équipe irlandaise.
Oui, bah après.
Un 19-6 hein, pour l'Irlande.
L'essentiel ouais. C'est la victoire dans les matchs comme ça. Dans les matchs comme ça, l'essentiel, c'est la victoire.
Ah oui, mais bon, ils ont eu chaud quand même. Hein. Ils ont eu chaud.
Je ne sais pas si tu as remarqué, Alexandre, depuis que Valérie.
Elle suit,
elle commence à s'y connaître. Hein.
C'est ça.
Attends, c'est une pro maintenant.
Non, j'ai regardé le match. C'est vrai qu'il y a une très bonne mi-temps, une très 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 bonne première mi-temps. Et une deuxième mi-temps.
Ça, il menait 21 à 3.
Pas des plus intéressantes.
Le Racing menait 21 à 3 à la mi-temps.
Oui.
J'avais eu l'alerte sur mon téléphone et j'étais choqué. Et à la fin du à la
choqué
fin,
choqué
bah oui, bah, 21 à 3 à la mi-temps c'est large quand
ouais.
même
ouais.
C'est assez large et voir à la fin du match 27-22
ouais.
ça a dû craquer défensivement.
Ah, totalement.
Bon, il y a eu un bon Machno un bon Thomas aussi.
Thomas ouais. Qui a bien joué.
Ouais, il y a eu des bons joueurs, c'est vrai, heureusement. Mais après quand
et
ils
et
ont
pour
changé
pour la finale alors.
Pour la finale j'espère
le pronostic.
Moi je verrais bien le Racing, pourquoi pas.
Pourquoi pas cette année hein, ils ont
voilà. Parce que l'an dernier ils ont perdu.
L'an dernier, ils ont perdu, mais ouais. Là, cette année, ils ont plus d'armes.
Mais il faudra qu'ils fassent moins d'erreurs, hein, quand même, comme ils disent, un petit peu des... Bah oui, c'est ce que j'ai raconté sur la deuxième mi-temps. S'ils nous font un match comme la deuxième mi-temps, c'est pas la peine, ils sont balayés rapidement même.
Tu regardes un peu, François, le rugby
quand j'ai 5 minutes, mais...
Ouais. T'as pas suivi, là?
Bah, il était dans ses préparatifs.
Ah bah oui.
Ce week-end, j'étais mort. Hein.
Ah oui. Bah surtout qu'en plus, dans 3 jours, tu pars.
Dans 2 jours.
Dans 2 jours, bah on va en parler, mais oui, effectivement. Il y a beaucoup de choses à... Et toi, Bruno, tu regardes pas le rugby?
Non.
Non. Toi, tu regardes le bol d'or?
Non plus.
Rien du tout. Oh, bon, ensuite.
Ensuite, on va passer à la Ligue 1. Parce qu'il y avait quand même de la Ligue 1 ce week-end.
Alors, par contre, PSG, pas terrible. Hein, même
Paris
catastrophe.
A fait un petit 1-0. Bon, ils ont gagné au moins. Ils ont gagné.
Ouais, mais ils ont marqué à la 77e, je crois.
Ils ont eu, oui, par Giovanni Lo Celso. Non, mais ils ont fait un petit match. C'était contre Bordeaux, c'était pas très intéressant. Ils ont plus d'enjeux, ils ont plus rien.
Ils sont champions de France.
Ça sert à rien maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est la bataille pour le podium et pour la relégation aussi, parce qu'il y a pas mal d'embrouilles. Alors, déjà, Monaco s'incline contre Guingamp 3-1. Ça, c'est
une sacrée surprise. Hein.
Ça, c'est une sacrée surprise. Lyon en a profité et a gagné contre Dijon 5-2. Marseille a bien préparé sa demi-finale de jeudi face à Lille 5-1 contre Lille donc très bonne préparation avec un doublé notamment de Mitroglou, l'attaquant qui ne marque quasiment jamais depuis le début de la saison.
Tu vois, il a planté
deux buts. Saint-Etienne s'est bien rattrapé
à 2 minutes d'intervalle.
C'est vrai.
35e je crois.
Il a marqué deux buts comme ça.
Il y avait
4-0 à la mi-temps pour Marseille.
Ouh.
Ils avaient bien dominé le match. Ensuite, donc Saint-Etienne a gagné contre 3-1 alors que 3 menait jusqu'à la 78e minute. Et enfin, Nice a gagné contre Montpellier 1-0. Voilà pour les rencontres principales. Au classement, donc on l'a dit, bon, Paris, on les compte plus parce que maintenant, pas besoin de dire qu'ils sont premiers parce que de toute façon, ils sont champions. On va commencer directement de la deuxième place.
Donc c'était Monaco.
Là où ça devient intéressant, c'est que ça reste toujours Monaco. Mais Lyon et Marseille ne sont plus qu'à un point de Monaco. Monaco a 70 points et Lyon et Marseille ont 69 points.
Et respect pour Marseille, hein, parce que Marseille, oui, ils étaient mal barrés en début de saison.
Et Marseille est bien revenu. Hein.
Ah
et,
ouais.
Là, cette année, on est peut-être en Ligue des Champions.
Ah.
Et enfin, dans le bas de tableau, on voit que Metz, Lille et Troyes sont mal barrés, 18, 19 et 20e. Lille, il y a de moins en moins d'espoir d'aller en Ligue 1, de rester en Ligue 1. Mais en même temps, c'est mérité.
Par contre, en Ligue 2, c'est pas Amiens qui monte ?
Reims. C'est Reims. Reims qui a validé
Reims,
son...
Ouais.
C'est Reims qui a validé
deux ans de purgatoire.
Oui, c'est ça. Ils sont remontés direct.
Ah ben Reims, dans les années combien ? 70, 70 et tout ça, même à 60.
Oui,
ah,
avant,
mais oui,
avant,
oui, mais
avant,
déjà 60-70, c'était déjà
les... Dans les années 50.
Oui, mais ça a 50, commencé, 60. Mais c'était une sacrée équipe.
Oui, ils avaient fait des finales en Ligue des Champions.
Mais enfin, en 50, j'étais pas né.
Il y avait Copa à l'époque.
Pas besoin d'être né pour savoir.
Oui, non, mais bon, c'est vrai que Reims a été une grande équipe. Ce que je voulais dire, c'est que déjà dans les années 70...
C'était un peu le PSG.
Voilà,
et il y avait aussi la Coupe de France parce que les Herbiers ils vont
c'est
se
vrai.
Trouver contre.
Mais ça, c'était la semaine dernière. Oui, c'est vrai. C'est vrai, les Herbiers qui ont gagné 2-0 et qui vont en finale contre Paris.
Normalement,
ils prennent une
valise, mais les Herbiers vont participer à la Coupe d'Europe parce que PSG ils peuvent pas participer.
Si les Herbiers gagnent.
Et non.
Et si, parce que attention, non, parce que si les Herbiers ne gagnent pas, c'est la sixième place au championnat qui devient européenne.
Ah, c'est pas. C'est... Non. Il me semblait que c'était ça avant.
Non, c'était pas ça.
Ça l'a été à un moment, ça, non ?
Non.
Non, c'était toujours. En fait, si le champion gagne la Coupe de France, il y a une place en plus en Europe dans notre classement.
Mm-hmm.
Et sinon, le gagnant va dans la petite Coupe d'Europe.
Oh, c'est dommage! Parce que les Herbiers, le petit poussé,
ça sert à rien. Enfin, c'est pas pratique. Déjà, ils auraient eu des problèmes parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure nécessaire.
Ouais, mais à côté, il y a Nantes, ils vont jouer à Nantes, et puis voilà.
Ouais, mais c'est les Herbiers, c'est en national. Ils vont prendre 8-0, 9-0, 10-0 tous les matchs.
Ils sont bien arrivés en finale de la Coupe de France.
Oui, mais là, c'est la Coupe d'Europe, c'est pas pareil.
Ouais, mais bon. Ah, à savoir.
Eh oui.
Ça
laisse des chances en France aussi.
Oui, on va dire.
Ça laisse surtout une chance.
Quand tu vois
le
niveau français,
le sixième, il est content, lui.
Voilà, le sixième est content. Il y a autre chose ?
Eh non. Bah là, il va y avoir la semaine Europe, Coupe d'Europe.
Donc, ouais, on risque d'avoir Nîmes qui monte en première division aussi.
C'est vrai, ouais.
C'est pas loin, ça, Nîmes.
Ils sont deux à monter ?
Nîmes, ils sont pas loin, ouais.
Ils sont deuxième.
Ah oui, donc.
Ils montent.
Ils vont faire un retour en première.
Voilà, c'est bien parce que le stade n'est pas loin. On est à 70 bornes, nous, si on veut aller voir des matchs de Ligue 1.
C'est vrai.
Et c'est toujours l'entente Nîmes-Avignon ou...
Non, c'est Nîmes. Arles-Avignon, ça a coulé. Arles-Avignon.
Non, Nîmes, ça restait toujours Nîmes.
Oui. Ouais. Heureusement que vous êtes tous là.
Nous on suit.
Alors, on va revenir au Rallye Raid parce que, avec François, justement, tu représentes le SRA de Mazan. Alors, pour y voir un petit peu plus clair, le rallye raid, c'est quoi ? C'est une course ? C'est du safari ? C'est quoi ?
Non, alors, tu fais toujours l'erreur. C'est pas le rallye. Un rallye, c'était avec des épreuves chronométrées. Donc, nous, c'est pas des étapes chronométrées ni des épreuves chronométrées. C'est des épreuves... Enfin, c'est des étapes où tu vas à la vitesse que tu veux. Mais par contre, tu es contrôlé. Tu as des contrôles de passage comme dans les rallyes. Tu dois pointer des cartons. Tu dois faire le parcours selon un roadbook. Voilà.
Donc donc les participants, au début, ont un roadbook, c'est-à-dire le descriptif détaillé de là où ils doivent passer, en fait.
Ils ont le chemin avec des petits signes et des chiffres qu'ils doivent suivre à la lettre, sinon ils se perdent.
Et justement, comment ça se passe ? Parce que là, les concurrents, tu ne les connais pas forcément. Certains, c'est leur deuxième, troisième participation. D'autres, c'est leur toute première. Est-ce qu'il y a quand même un test avant pour que savoir s'ils sont capables de lire le roadbook, savoir s'ils sont capables de s'orienter, connaître leur matériel? Il y a une étude avant qui est faite ?
Donc non, il n'y a pas d'étude. Ça s'inscrit qui veut. Si tu veux t'inscrire demain, tu t'inscris. Par contre, il faut un minimum de notions d'orientation et un minimum de notions, je dirais, de conduite de 4x4. Tu ne peux pas aller du jour au lendemain mettre tes 4 roues sur les pistes africaines ou même marocaines, selon le cas, dans les cailloux, dans les ornières, il y a des pièges, il y a le terrain à luire. Mais ce qu'on fait, en général, les nouveaux, on les encadre dans les premières étapes, on leur met des autres voitures ou des autres motards avec eux pour les, pour les sensibiliser, puis pour les leur apprendre un peu le parcours, quoi. Comment il faut faire.
Tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de chronomètre.
Non.
Mais est-ce qu'il n'y en a pas parmi les compétiteurs qui ont quand même justement cet esprit de compétition, vouloir finir le premier?
Il n'y a pas de notion de vitesse. Par contre, il y a un classement quand même qui s'opère grâce à une clé, on met une clé data qu'on donne à chaque concurrent. Donc on a le parcours exact que le concurrent fait et nous on a un parcours de référence. Et c'est celui qui s'approche de le plus près de la vérité qui a le moins de points de pénalité. Voilà.
Ah d'accord.
C'est que de la stratégie en fait.
Tu manques un contrôle de passage, c'est 500 points, tu vois, tu as des pénalités.
Donc ils sont tous équipés de transpondeurs.
On leur donne, c'est pas un transpondeur, c'est une clé USB qui fait GPS, qu'on relève tous les soirs à l'arrivée. On leur donne.
Et au moins s'ils se perdent, on sait où ils sont.
Non, alors là, il y a encore autre chose. Ah. Ça nous permet de calculer et de suivre le parcours. Par contre, ils ont tous obligatoirement une balise. Une balise qui s'appelle une balise OACA, pour ne citer que la marque, qui, elle, émet par satellite le signal et on suit les concurrents en direct sur la carte.
Oui, au moins.
Donc, il y a deux ou trois boutons sur cette balise. Quand ils ont un souci mécanique, ils déclenchent une fois, fait un bouton. Ça veut dire qu'ils ont un souci mécanique, donc le téléphone arrive sur nos téléphones et on intervient. Et quand c'est plus grave, c'est pareil. Il y a un déclenchement de détresse. Voilà.
Et tu dis, tout le monde peut participer, mais il faut avoir un minimum de connaissances dans le tout-terrain. Le problème, c'est que ici en France, comment s'entraîner dans le tout-terrain, dans le sable?
On a beaucoup de gens qui sont issus de l'endurance, hein, des motos endurance. C'est ça, c'est le terrain à peu près le même, hein, les cailloux, les bosses, des...
Et t'as que des 4x4 qui tournent ou t'as également des motos?
Non, on a en tout on est 200 pour cette participation, cette 14e édition, on est 200 à participer. Il y a, je vais te donner le détail puisque je ne connais pas par cœur. Dans les concurrents, il y a 33 voitures de concurrents. Hein. Il y a une moto 34. Ah oui. Et 18 SSV, c'est les petites buggy.
C'est marrant ça, les buggy.
C'est les, à deux places là.
Oui, mais c'est marrant, mais ça se retourne facilement, non?
Ah, je sais pas.
Donc,
François,
ce qui nous fait,
c'est léger.
Non, ça se retourne pas.
Non, ça se retourne pas.
Ah, non, c'est hyper bas, hyper stable, hyper puissant.
Ah, dans le sable, j'aurais peur.
Avec
les rochers et tout.
Ça donne l'impression quand tu les vois grimper les dunes, on dirait des scarabées. C'est les scarabées qui montent sur la sable, c'est pareil. C'est pareil. C'est le véhicule qui passe le mieux dans le sable. J'en ai rarement vu planter, moi.
C'est les plus légers.
C'est léger et puis c'est puissant.
C'est puissant,
ouais. Et puis ça a des gros pneus, donc c'est vraiment le joujou idéal, ouais.
Et donc, combien de SSV?
18.
18. Ah, il y en a un peu moins.
C'est ce qui est, pour moi, mais c'est ce qui est très difficile à transporter parce que ça prend beaucoup de place.
Ah, c'est pour ça.
Et pour les remorques et tout.
Parce que le transport, c'est vous qui vous en occupez.
Ouais.
D'accord.
En fait, c'était un raid clairement, en fait. Ils arrivent en avion. Donc nous, on transporte, mais pas tous, hein, mais la plupart des pilotes arrivent en avion à Marrakech. Et nous, on transporte leurs motos, leurs malles, leurs bagages depuis Mazan jusqu'à Marrakech.
Justement, on fait la pause et on parle de l'organisation générale parce que c'est un travail titanesque.
Ouais.
On est venu danser, oublier que tout va mal. You gonna feel the magic, the love is getting loud. On est venu chanter l'amour international. Everyone's going crazy, ce soir c'est le mondial. Yeah.
Parlons Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, nous sommes de retour sur le 102.2. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Nous sommes en direct depuis le studio de Carpentras-Serre avec mes amis animateurs Alexandre, Valérie, Bruno. Moi, gentil avec moi aujourd'hui. Hein, pas sympa. Mais bon, en tout cas, je le salue. Ah, non, c'est vrai, pas sympa. Mais bon.
Il dit des bêtises.
Ouais, des bêtises. Mais par contre, on a un invité de marque aujourd'hui, François Richy, secrétaire du Sud-Raid Aventure de Mazan et coprésident de l'Office municipal des sports de Carpentras. Rebonsoir, mon petit François.
Non, de Mazan.
De Mazan, je dis quoi ?
Carpentras.
De Carpentras. C'est vraiment les vacances.
Ouais. T'as vraiment pas travaillé. Hein.
C'est fou. Bon.
Qu'est-ce qui t'arrive ?
Bah, je suis parti déjà en rallye raid.
Ah, c'est pour ça.
Ah, oui. Là, ça y est, je voyage. Il m'a donné un... Comment ça s'appelle
la tête d'un roadbook ?
Non, c'est pas un roadbook, c'est un carnet de route.
Un carnet de route.
Pardon.
Carnet de route 2018.
En français, on dit carnet de route.
Non, pas du tout. Il nous l'a expliqué tout à l'heure. C'est quoi la différence entre un carnet de route et un roadbook ?
Un carnet de route, c'est...
Parle près du micro.
Un carnet de route, c'est un carnet qui te permet d'avoir toutes les informations. D'abord, le dénivelé, le descriptif de l'étape, les points GPS qui te manquent, les points de ravitaillement essence... les numéros utiles d'assistance médicale, etc. C'est un carnet que tu as dans ta musette pour pouvoir te dépanner quand tu es vraiment le nez dans le sable. Voilà. Tandis que le roadbook, lui, il permet de naviguer. C'est un rouleau de papier ou un livre. Un livre relié.
C'est un parchemin, d'accord.
Sur lequel il y a toutes les étapes répertoriées, je dirais mètre par mètre.
Oui. C'est ce que lit le copilote qui dit voilà. Attention,
à gauche, à droite, mètres, attention, d'accord, il y a une crevasse, d'accord. Attention, il y a une mosquée à gauche, donc vous tournez à
compris.
Droite, etc.
J'ai
fais
compris,
attention, merci. T'as un grand trou à droite et un grand trou à gauche.
Voilà. Et des grosses,
par contre, il n'y a que les pilotes moto, si tu veux, qui ne se parlent pas eux-mêmes.
Oui, non, mais eux, ils ont un dérouleur automatique.
Ah, c'est bien ça.
Électrique, ouais. Mais bon, il faut qu'ils lisent le GPS et le roadbook.
Voilà. Bah, ils ne peuvent pas avoir un système qui est relié à une oreillette, dommage. Qui leur, tu sais, un lecteur.
Ouais,
au fur et à mesure, ça fait GPS.
Je sais pas si c'est pas interdit.
Ah bah oui, ça les aide trop.
Non, ça peut être pas mal.
Ouais.
Mais dangereux aussi.
Alors, avant de rentrer dans le détail justement de cette course hein, qui va commencer bientôt, d'une manière générale, pour participer à un rallye raid, à partir de quel âge on peut commencer à naviguer ?
À naviguer. Alors, tu peux être copilote, donc il n'y a pas d'âge. On a eu sur le raid depuis. On en est à la 14e édition, donc on a eu. On appelle ça les enfants du raid. On a eu des enfants qui ont commencé à 7 ans avec leurs parents.
Ah oui.
Il y en a qui l'ont fait en famille.
Ils le font en famille.
Il y en a qui l'ont fait le père et le fils. Il y en a qui l'ont fait avec la nièce. Il y en a qui le font avec. Donc voilà, il n'y a pas d'âge pour naviguer. Par contre, pour piloter, c'est obligatoire d'avoir le permis. Être titulaire du permis moto ou auto.
Et après, est-ce qu'il y a, il existe des qualifications particulières pour faire du tout-terrain ? Ou pour éventuellement conduire les buggy.
Ah, je dirais, il faut quand même avoir un peu eu de la pratique de la moto endurance, parce que bon, surtout apprécier le terrain, c'est les difficultés du terrain, la lecture du terrain et absorber les bosses, etc. Il faut l'avoir fait un peu quand même.
Mais, parce que rouler dans le désert, c'est pas évident, dans le sable.
On dit le désert, mais il y a que 4 étapes de sable. Après tout le reste, c'est de la piste. La piste qui soit, elle peut être sablonneuse, mais elle peut être aussi caillouteuse. Donc avec des pièges ou avec des ravines, etc. Donc roulante, mais piégeuse.
Et sinon, donc là, c'est la 14e édition. Qui a eu l'idée de créer ce rallye raid ?
C'est une longue histoire, ça. Parce que Mazan était, il y a longtemps, c'est-à-dire dans les années 60, 65, était partenaire du raid de l'amitié. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'était un raid qui partait de Crépy-en-Valois, qui avait été inventé par Jean-Michel Siné, qui était un disciple de Bruno Sabine. Voilà. Donc, on nous appelait le Dakar du pauvre, parce que la caravane a eu monté presque à 600 véhicules, tout, avec l'assistance, et ça partait de Mazan.
Et donc, vous faisiez quel circuit ?
Ben, le Maroc, hein, toujours.
Ah, ça a toujours été le même pays, toujours le Maroc. Et pourquoi le Maroc ? Par rapport à cette histoire-là ou
ben,
il y a également une
le Maroc est un beau pays, déjà, très accueillant. et avec, je dirais, un relief très, très varié. Mais je dis varié, c'est très varié. Tu sautes une vallée, tu as une couleur qui a changé, tu as la texture, tu as du sable ou pas du sable, tu as une vallée profonde, tu as des ouèdes, tu as... Dans toutes les vallées, il y a des surprises et des trucs qu'on n'a encore pas découverts cette année dans les reconnaissances, puisqu'on a fait des reconnaissances au mois de fin octobre. Là. On a trouvé des pistes et qui nous ont mené à une vallée qu'on n'avait jamais vue. Et pourtant, le président, ça fait plus de 35 ans qu'il va au Maroc. Hein. Il n'avait jamais vu cet endroit.
Donc, et c'est quand même assez paradoxal, parce que c'est vrai que, comme tu disais, c'est un disciple de Sabine qui a créé plus ou moins le Paris-Dakar. Et c'est vrai qu'on aurait eu tendance à penser que vous vous seriez inspiré du Paris-Dakar. Le Paris-Dakar, c'était le Sénégal, c'était l'arrivée donc, à Dakar sur la plage, etc. Et alors que non, vous êtes toujours resté sur le Maroc.
Non, on n'est pas toujours resté sur le Maroc. Donc je disais, l'inventeur de... ça s'appelait le raid d'amitié et il y a une quinzaine d'années, on s'est séparés. Il y avait le sud et le nord. Nous, c'était le sud, on a dit, pour des raisons diverses et variées, on s'est séparés. Mmh. Donc, on a décidé de créer notre propre raid. Et, et pour ne pas faire de l'ombrage, justement, au raid qui est au Maroc, on a fait les quatre premières éditions en Tunisie. Donc, okay. Voilà. Mmh. Mais bon, la Tunisie, il y a moins de relief et puis on va toujours au même endroit, quoi. Tu vas à Xarguilan et puis au fond là-bas et puis c'est tout ce que tu fais. Il n'y a pas trop d'endroits pour s'amuser, quoi. Parce qu'au Maroc, il y a plusieurs endroits où tu peux...
C'est la raison pour laquelle vous êtes revenu après au Maroc.
Après 4 ans, on a dit, on a respecté le deal, on peut retourner là-bas.
Et les concurrents qui s'inscrivent, qu'est-ce qu'ils recherchent avant tout?
Quand tu t'inscris dans ce genre d'épreuve, c'est un peu l'aventure. Tu es le baroudeur de service.
Parce que quand ils débutent, ils arrivent sur place, ils ne connaissent pas le parcours.
Ah non.
Voilà, ils ont tout le... Alors comment ça se passe? Ils ont tout le jour même ou...
Ils ont ça dans les contrôles techniques, ils vont avoir le carnet de route. Donc sur le carnet de route, bien sûr, bien évidemment, il y a le parcours qui est connu, les tracés. Sur Internet, tu as le tracé et les étapes. Mais bon, après, entre le tracé et le tracé réel, c'est un tracé qui est tracé.
C'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Celui qui se rapproche le plus de ton tracé, ouais, c'est celui qui marquera le plus de points.
Alors là, c'est un tracé qui figure sur une carte d'état-major, mais il est bien différent de celui qu'on leur propose, parce qu'on passe par des pistes qui ne sont pas répertoriées sur la carte d'état-major.
Et donc, qu'est-ce qu'ils recherchent? L'aventure, le sport?
Alors, il y a ceux qui recherchent, bien sûr, l'aventure. Ceux qui recherchent...
Ça, c'est une majorité, l'aventure?
Au départ, oui. Après, ça devient... On a des habitués. Nous, ça fait 15 ans. Parce que ça fait 15 ans que c'est qu'ils viennent. Hein.
Ils viennent tous les ans?
Pratiquement. Mais c'est le moment de s'éclater avec les copains, etc. De rouler ensemble. En France, on ne peut plus rouler. On n'a plus le droit.
Ça dure combien de temps?
Alors, ça dure, cette année, il y a 9 étapes, ça dure 9 jours.
Ouais.
On a écourté d'une étape cette année à cause du bateau, parce qu'on n'avait pas le bateau au retour qui correspondait, donc on est obligé de chunter.
Ouais, sinon, c'était le retour à la nage.
Non, sinon, c'est 10 étapes, 10 jours.
D'accord.
10 jours pleins.
Bon, allez, on fait une petite pause et on continue à parler de cet événement.
Keep those tears at bay. Oh, my love, don't stop running.
Parlons Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc avant de continuer, Alexandre, interrogation orale. Comme tu vas passer le bac
bientôt,
il faut que tu te prépares psychologiquement et surtout à répondre aux questions. On peut nous réécouter quand ?
Alors, on peut nous réécouter le mercredi matin de 6h30, ça c'est 6h30, c'est ça ?
Ah, faut demander à Valérie.
6h30 à 8h du coup. Et le podcast sera donc le mercredi dans l'après-midi sur le site internet www.rtvfm.net et sur la page Facebook RTVFM.
Ah, trop fort.
Il est bon.
C'est bon, tu peux passer ton bac.
Je sais. Je peux avoir avec mention. Là.
Bah, t'as intérêt.
Bah oui.
Si ton père nous écoute, tu vas voir. Le champagne après. Alors, on revient donc au Rally Raid. Donc, on parlait justement avant un petit peu de l'objectif des concurrents. En moyenne, vous avez combien de concurrents à chaque... Bono, il a tellement envie d'écouter le morceau suivant, c'est d'Adjo.
Mon Dieu.
Qu'il l'a lancé maintenant. Mais bon, c'est pas grave, on t'en veut pas. Oui, donc je reviens par rapport à ma question, François. Là, tu m'as dit 200 concurrents, ouais. Cette édition. Les éditions précédentes, c'est toujours le même nombre. Vous limitez le nombre ?
On ne limite pas, mais quand on a fait le 10e anniversaire, le 10e raid, on était monté à 310, je crois. Mais après, on rencontre des gros problèmes au Maroc. Les capacités d'accueil des hôtels, on n'en trouve pas. Et si c'est pour prendre 3 ou 4 hôtels, soit dans la même région ou dans le même endroit, ça casse l'ambiance, c'est plus pareil.
Ah, ils dorment pas dans les tentes ?
On fait des bivouacs, il y a 4 bivouacs cette année, et le reste c'est les hôtels.
Ah d'accord.
Et, oui.
Et quand vous faites les bivouacs, est-ce que c'est des bivouacs...
Bivouacs montés.
Montés, voilà.
Oui, parce que quand on était en Tunisie, oui, les motards, etc., portaient leur tente, leur duvet et tout, ça nous faisait une charge importante. Déjà là, c'est compliqué. Il faut voir que la caravane qui va partir mercredi, elle est composée de presque 34-4, 20 remorques, 6 fourgons. C'est impressionnant.
Et justement, au niveau de l'équipe d'organisation, donc vous partez, vous êtes tous situés à Mazan ou non dans toute la France ?
Il y en a qui viennent de quelques coins de la France, mais on est majoritairement vraiment de Mazan ou des alentours. Il y a quelques membres de Baudouin, Malmort, mais le noyau dur, je dirais, il est à Mazan.
Et ce type de rallye raid, ça ne se fait pas au dernier moment, c'est programmé, il y a toute une organisation. Donc en termes de rétro-planning, comment ça se passe ? Vous commencez par quoi ?
On commence par faire des reconnaissances. D'abord, on décide un parcours l'année d'après, des dates. Donc, il faut choisir les dates assez judicieusement pour pas qu'on ait des surprises dans les inscriptions. Il faut que ça concorde avec toutes les tranches de vacances scolaires, etc., etc., qu'on arrive à faire concilier tout. Parce qu'on a des gens qui viennent de toute la France et même de toute l'Europe. On a eu jusqu'à 11 nationalités. Ah ils sont venus au raid. Donc,
cette année, il y a combien de nationalités ?
Je crois qu'on est autour de 7-8. Ah, oui. Mais on a eu un sommet à 11 avec des Qataris qui étaient venus justement. C'était assez compliqué. Ils avaient mis leur voiture en Égypte, au port. Ça arrivait à Fos. Enfin, c'était assez compliqué.
Ça, j'imagine. Donc, ça, les dates, c'est un an avant, à peu près.
Oui, on choisit la date. Après, on détermine les dates des reconnaissances qui sont toujours en octobre.
Combien de reconnaissances vous faites ?
On part 3 semaines, obligé. 3 semaines pour écrire le roadbook, chercher des nouvelles pistes.
Et vous partez qu'une seule fois ?
On part qu'une seule fois. Mais là, on va avoir des ouvreurs qui vont confirmer les endroits où on a un peu des doutes. Notamment dans les pistes de montagne qui risquent d'être coupées par les orages qu'il y a eu ou par la neige ou abîmées.
Et oui, parce que là, la reconnaissance, vous l'avez faite en octobre-novembre, c'est ça ?
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a eu...
des pluies, 4-5
mois, la pluie, la neige, donc les routes peuvent changer. Est-ce qu'il y a d'autres choses justement qui peuvent bloquer l'évolution des concurrents ?
Oui, bien sûr, les orages du moment. Il y a 2 ans, on a eu 2 étapes qui ont été pure et simplement annulées et il a fallu qu'on fasse faire 600 bornes aux motards pour rallier Agadir parce que toutes les routes qui menaient à Marrakech étaient bloquées. On était à Ouarzazate. Exactement, on avait envoyé des éclaireurs et les ponts ont été coupés par les Oued ont débordé, les ponts coupés il a fallu qu'on fasse le tour vers, par Agadir et remonter à Marrakech. Total, 600 bornes, les motards, ils avaient le cul bien tanné, quoi. Parce que c'est pas fait pour hein, les motos. Hein.
Mais non,
les motos d'endurance, elles ne sont pas faites pour faire de la route. Hein.
Et donc octobre-novembre, vous faites de la reconnaissance. Les inscriptions sont lancées déjà ou pas ?
Non, elles seront lancées à partir de janvier, je crois.
De janvier ?
Janvier. Avec, bien sûr, un mois. Si tu t'inscris dans le premier mois, tu attends de réduction, etc. Ouais, c'est pour inciter les gens à s'inscrire rapidement.
Donc, en fait, les inscriptions débutent quand la feuille de route est réalisée ?
Oui. Oui, parce qu'il faut qu'on propose un parcours, qu'on propose des étapes, qu'on propose des hôtels. Quand on leur propose ça, il faut qu'on ait tout bouclé, quoi.
Donc, pour en revenir à la reco, vous êtes combien à partir ?
Cette année, on était 6 véhicules.
6 véhicules ?
Ouais.
Et comment ça se passe une reco ? C'est-à-dire que, parce que tu disais, là, ce sont des nouvelles routes, donc vous regardez le plan, vous faites en fonction de quoi que vous n'avez pas
alors,
vu, comment ça se passe ?
Alors, il y a un membre qui est assez calé, qui fait déjà des repérages sur Google. Google, ça ne fait pas tout. Hein. Google, donc il dit là, on passe, etc. Il fait un parcours sommaire. Et après, on essaye de le valider. Des fois, on a des surprises. La piste qu'on a vue sur Google, elle n'existe plus. Ah oui. Où elle est coupée, ou donc voilà. Et puis on essaie, et puis où elle était goudronnée, voilà.
Et donc vous l'évitez celle-là.
Mais on essaie de minimiser le goudron. Les gens sont pas venus là pour faire du goudron, ils sont venus faire la piste.
Et je crois aussi que lors de la reco, sur les pistes de montagne, vous avez eu quand même de sacrées surprises.
On a eu des surprises, et puis surtout c'était assez chaud, quoi.
Je veux dire, il y avait du vide.
Oui, c'est des pistes qui passent à presque 2700 mètres hein, d'altitude, et des pistes de montagne à flanc de colline qui sont faites de la main de l'homme avec des murs en pierre sèche. C'est pas rassurant du tout, et il y a quelques chutes de pierre au milieu de la piste, donc il faut serrer du côté précipice. Les passagers ne sont pas tout à fait sereins. Le chauffeur, il est crispé. Moi, j'ai eu quelques sueurs dans les mains.
C'est pour ça que tu as un peu moins de cheveux sur la tête.
Voilà. Non, puis voilà, non, c'est des reconnaissances, c'est fait pour ça. Mais,
et comment tu valides ou invalides un tracé ? En fonction de la largeur de la route ?
Ben, on valide.
Comment ça se passe ?
Il faut qu'on puisse passer, il faut qu'on détermine s'il y a le moins de danger possible pour les concurrents, qu'on évalue si à moto c'est possible, si on ne prend pas de risque, si en voiture on ne va pas perdre une voiture dans la montagne. Parce que le mec, il sera cassé la gueule, tu vois. C'est... Donc, on essaie de... Et puis, bon, on privilégie quand même la beauté du paysage. Hein. Là, on a fait les trois premières étapes. Je crois qu'ils vont s'éclater. Ils vont éclater le Kodak. Hein.
Ah oui ?
Ah ouais. Ah, vraiment.
Et quand vous faites la reco, par exemple, la première manche, c'est Marrakech, Tallowin.
Ouais.
Donc là, c'est une épreuve quand même assez longue, 285 km.
Ouais.
Comment vous faites pour faire justement cette reconnaissance parce que
on part avec un roadbook.
Vous faites le circuit.
On fait un roadbook vierge et à toutes les interceptions, on marque flèche à gauche, flèche à droite, etc. etc.
Et ça, vous le faites en combien de jours pour faire 300
km ? Pour faire l'étape, il faut 3 jours. Hein.
3 jours ?
Des fois 4.
Et oui, parce que.
Des fois 5. Parce que tu as le cinquième jour, tu arrives et tu es en fin d'étape et la piste est coupée. Donc tout ce que tu as fait deux jours auparavant, tu reviens en arrière, tu reprends tout, etc. etc.
Et avec les autorités locales, ça se passe comment ?
Oh, on est très très bien reçus. On est très...
Ils apprécient ?
Ah ouais, ben oui. Ils apprécient d'être venus. On est attendus. Bon, on commence à avoir un peu de notoriété quand même. Donc quand on va là-bas, on ne va pas avec les 4x4 vides ni les remorques vides. Donc, on amène ce qu'il faut dans les populations.
Vous amenez quoi ?
Dépourvues. Alors, ça part. Cette année, on a un gros voyage d'Orny qui nous a été donné par la société Fondasol qui a renouvelé son parc. Mmh. Et la bonne idée, c'est de ne pas l'avoir jeté. C'est que les ordinateurs vont retrouver une nouvelle vie dans les écoles du Sahara. Ils n'ont besoin que d'apprendre à taper ou à écrire. Ils n'ont pas besoin de logiciels puissants. Donc, les ordinateurs qui ont été mis au rebut parce qu'ils étaient assez lents, feront une nouvelle vie.
Ah, c'est bien ça.
Voilà, il y a ça. Ensuite, on a lancé l'opération Nouvelle Vie pour les vélos. Pareil, c'était lancé il y a 2 ans. Et on l'a renouvelé cette année en partenariat avec la COV. Le président de la COV a bien voulu donner les directives nécessaires aux déchetteries de la COV de nous garder les vélos que les gens jetaient. Donc, on en a récupéré, je crois, 80.
Qu'on a remis
en état, ouais. Ben, c'était ou une cocotte de frein qui était cassée, ou un câble, ou un pneu. Donc, c'était vraiment... C'est malheureux de le dire, mais on jette beaucoup de choses. On devrait un peu regarder un peu notre nombril parce que...
On est dans une société de consommation et ouais. Malheureusement...
Ben, c'est voilà. Le dernier cri.
Après, d'autres en profitent.
On n'est pas capable de réparer une chaîne qui est cassée, tu vois. On met une attache rapide, on ne sait pas le faire. Donc on jette.
Je sais le faire.
Non, voilà, c'est une parenthèse, mais c'est ça. Hein. Et les vélos, ils n'ont pas grand-chose. Hein. Il y en a vraiment qui sont coupés en deux, mais il y en a qui sont... Ils font largement une deuxième, voire une troisième vie. Donc quand on arrive là-bas...
Il fait le bonheur.
Ça doit être la fête au village là-bas quand vous arrivez.
On a un comité d'accueil et puis on a 10 vélos, 15 vélos ou 20 vélos. Donc les gamins ils sont là, ils attendent qu'on leur donne le vélo et ils choisissent des yeux la couleur et tout. Donc
et vous les distribuez dans chaque ville étape ?
Non, on va principalement dans le sud du.
Plus dans le désert là.
Food d'ailleurs. Parce qu'on a, un ami qui est depuis 15 ans et président de la fondation. Marocaine pour le développement de la jeunesse dans cette région et qui œuvre beaucoup et avec qui on a beaucoup sympathisé. On sait que c'est distribué correctement.
Voilà. De manière équitable.
Voilà. Donc, ça fait quelques années, en 14 ans, on lui a descendu 5 ou 6 ambulances de pompiers. On lui a.
Donc là, cette année.
Des lits médicalisés.
Ordinateur, vélo, les trottinettes aussi, je crois.
Oui, ben oui, il y a quelqu'un qui m'en a donné tout à l'heure quand je suis venu au studio, là. Il m'en a donné une paire. Ouais, ben le studio, les ballons, des balles de tennis, contrairement à ce qu'on croit.
Ah, même des ballons et balles de tennis.
Les balles de tennis, ils font une troisième vie là-bas. Parce que c'est pas grand-chose une balle de tennis, mais ça amuse les gamins. C'est vraiment. Ça prend pas de place dans la voiture, donc c'est parfait ça. Ça, après, bon, les vêtements, bien sûr, les chaussures des enfants. Ça, on distribue au gré de nos passages dans les montagnes. Parce que là, ils n'ont rien.
Ils n'ont rien. Voilà. Et si, par exemple, parmi nos auditeurs, certains nous entendent, comment faire pour vous contacter, pour pouvoir vous donner tout ça ?
Bon, on a bien sûr un site. Donc, ils contactent sur le site de Sud Red Aventure. Donc, c'est sra-assistance.org.
On le mettra sur le podcast.
Voilà. Et puis, après, on répond. Hein. Bon, pour maintenant, puisqu'on part dans 2 jours, c'est bouclé. Et comme on part, il n'y aura plus grand monde qui va pouvoir réceptionner les choses.
On est pour l'année prochaine.
Voilà, ou même pour les rocos. On en amène aussi aux rocos.
Et puis il y a aussi on en parlera en dernière partie, mais il y a un autre raid qui va être organisé cette année, c'est le raid des suricates.
Ouais, alors oui, c'est un raid.
Mais on développera tout à l'heure, mais juste, on pourra donner des vélos pour ce raid-là ou non ?
Je ne pense pas, non, parce qu'on n'est pas encore bien ancré. Ça se passera en Algérie, donc on n'est pas bien encore ancré. C'est un terrain inconnu, je dirais.
Bon, là, on développera un peu plus tout à l'heure. Là, on va faire la petite pause. Et puis,
oui, l'Algérie s'ouvre au monde, donc désire recevoir du tourisme. Donc, voilà.
Bon, en tout cas, les vélos, ils pourront resservir effectivement sur le prochain raid de l'an prochain. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve juste après.
Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut des petits, ma carte de crédit. Photo Snapchat du lundi au lundi. Son délire, elle même quand y'a la wifi, tant qu'on nous voit heureuse, elle lui suffit. Elle veut trop qu'on soit sur les réseaux. Je suis pas contre, mais il faut doser. Comprends qu'on peut pas tout exposer sur nous. Pour nous, yeah. Elle est dans l'insta love. Elle veut que tout le monde sache que je suis son homme. C'est sa façon d'être love de nous. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Toujours le même bébé, sa
Hashtag mon bé, mon chéri. Quand tu veux qu'on s'envole, n'oublie pas d'atterrir. Comme ça, on va pas tenir. La vie, c'est pas une série. Tu sais plus vivre ta vie dans la vraie vie. Regarde-moi et dis-moi ce qu'il te faut. Ouais. Moi ou une équipe de followers. C'est qu'il y a pire comme gros défaut, mais je doute de nous. Yeah. Elle est dans l'insta love. Elle veut que tout le monde sache que je suis son homme. C'est sa façon d'être love de nous. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Cynthia, mon amour, notre vie c'est pas leurs affaires. Si tu nous veux ensemble pour toujours, méfions-nous de l'œil des gens. Pour éloigner les vautours, c'est à nous d'être intelligents. Heavy Cynthia, mon amour, notre vie c'est pas leurs affaires. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, juste pour Bruno Dadjo, hein, parce que tout à l'heure vous avez pu remarquer, il était tellement enthousiaste de le mettre qu'il l'a mis un petit peu plus tôt. Donc voilà, c'était pour une petite dédicace Bob Marley pour mon petit Bruno. Alors, avant de continuer avec François Réchy, le sportif de la semaine, on parle de qui aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on va parler d'un joueur de foot égyptien. Qui joue en Angleterre, qui joue à Liverpool, il s'appelle Mohamed Salah. Et en fait, j'ai décidé d'en faire le sportif de la semaine parce que c'est quelqu'un qui, cette saison, a littéralement tout éclaté. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il a vraiment tout éclaté en Première Ligue cette année. Alors, avec Liverpool, bon, son équipe, elle est troisième au classement, donc c'est pas énorme, mais elle se défend. Mais il faut savoir que déjà, c'est un jeune joueur de 25 ans qui avait à la base été acheté par Chelsea. Puis ensuite vendu à la Fiorentina et puis qui avait été parti à Rome. Ensuite, il est revenu en Angleterre à Liverpool. Et là, cette saison, il est incroyable parce qu'en 46 matchs, il a inscrit 41 buts.
Oui, pratiquement un but par match.
Quasiment un but par match. Et il a 31 buts en championnat anglais. C'est un record depuis Cristiano Ronaldo en Angleterre. Ça remonte à 2008. Donc ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas vu un joueur comme ça. C'est un joueur qui n'a pas gagné énormément de titres. Hein. Il a été finaliste. Il a juste été finaliste de la Coupe d'Afrique. Bon, il a gagné quand même une fois la Première Ligue avec Chelsea, mais il n'avait pas beaucoup joué. Il était très peu utilisé. Et il a gagné également en Suisse 2 trophées de champion.
Et de quelle nationalité ?
Il est égyptien.
Et il joue en équipe nationale d'Égypte ?
Et il joue en équipe nationale d'Égypte. Et il a failli être président de la République égyptienne. Enfin, il a failli être élu président. Puisqu'aux élections en Égypte, il jouait tellement bien pour Liverpool que tous les supporters, il idolâtrait là-bas. Et tous les gens, lors des élections, ils ont barré le nom des candidats aux élections en Égypte pour mettre le nom de Mohamed Salah. Et il est tombé au second tour, il a perdu au second tour, mais il est allé jusque-là quand même, sans s'être présenté. Donc, ce qui est quand même assez énorme.
Non, je pense pas qu'en France ça se produise des trucs comme ça.
Ce qu'on appelle être publicité.
Ah ben oui, ça c'est clair.
Mais c'est bulletin nul hein, si tu mets en France le nom de quelqu'un.
Mais c'est un joueur, il faut savoir que c'est un joueur qui est en lice pour le Ballon d'Or.
Il a quel âge
selon moi? Alors il a 25 ans.
Ah, il est jeune encore.
Il est jeune encore et il est vraiment.
Il est né en 92, ouais.
Il est né vraiment, il est très 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 fort.
Tu connais Valérie?
Non, j'ai été regardé par curiosité parce que alors franchement, bah alors ça me disait rien.
Bah, c'est vrai qu'il n'est pas forcément très connu.
Mais hein. Il n'est pas très connu parce qu'en fait c'est un joueur qui au début, moi je l'ai découvert tôt quand je l'ai découvert sur les jeux vidéo, sur le jeu de base de foot FIFA.
Ah d'accord, tu joues sur vidéo.
Je joue à FIFA, moi, je suis un bon joueur à FIFA.
Donc si ton père écoute, voilà, non, il sait ce que tu fais.
Non mais je l'avais découvert comme ça. En fait, c'est un joueur qui n'a jamais énormément joué. Et c'est l'année dernière, depuis qu'il joue, qu'il a fait une seule saison à Rome. Et c'est là où en fait il a explosé. Là, il a signé à Liverpool cette année. Et Liverpool revient très fort. Il est en demi-finale de Ligue des Champions demain contre Rome, justement. Il est arrivé tard, hyper vite, vraiment très très vite. Et il a été élu aussi meilleur joueur du championnat anglais hier. Donc,
c'est et il va rester joueur à Liverpool ou il risque d'aller en Espagne?
Paris ou non, c'est l'Espagne, apparemment.
Ouais, l'Espagne. Il y a des chances qu'il aille au Real, mais ça dépend. Ça va dépendre de
Barcelone
de la
ou Madrid.
Moi, non, pas à Barcelone. S'il part à Madrid, Barcelone, ils n'ont plus besoin. Donc, moi, je sais pas, moi, je veux qu'il reste à Liverpool, personnellement.
Ouais.
Il est bien là-bas.
Bon, en tout cas, il n'y a pas de rumeur de déplacement pour l'instant.
Pour l'instant, pas de rumeur de départ. Lui, il sent bien. C'est quelqu'un qui fait énormément de bonnes actions.
Tu n'auras pas de rumeur avant la Coupe du Monde. Hein.
Bah oui, c'est sûr. Ouais. Mais bon, après, tu sais,
On va lui téléphoner pour qu'il reste à Liverpool.
Ouais, puis c'est quelqu'un qui est agréablement gentil. Il y a une autre anecdote aussi, je viens de m'en rappeler là. Il y a quelqu'un qui l'avait cambriolé en Égypte. Et en fait, lui, il a découvert qui c'était et au lieu d'appeler la police, au lieu de machin, il l'a invité au restaurant. Il a aidé la personne à se remonter au niveau social, à se réinsérer dans la société. Maintenant, il a trouvé un travail, tout ça.
Eh ben, c'est sûr qu'on ne trouverait pas. Il n'y a pas d'autres joueurs.
C'est un joueur de foot. Ouais, c'est assez particulier. C'est un peu un exemple.
Tu connaissais François?
Il a l'argent quand même. Il a l'argent pour.
Oui, mais il en profite.
Pour pouvoir
il a
le faire. Voilà,
ouais.
Il a
tu connaissais François?
Mmh.
Ah. François, il a une culture footballistique et sportive impressionnante. C'est pour ça que je vous pose la question.
J'ai joué quand même 47 ans en ballon. Hein. T'es gentil.
Ah, mais ça se voit. autre chose?
Non, c'est bon.
Super. Allez, on continue. Alors, avant de parler justement du raid et Suricat, on en parlera après la pause musicale parce que c'est un raid important et qui mérite qu'on s'y attarde. On va parler un peu de l'association, parce que c'est vrai que l'association, sans elle, ben on ne pourrait pas organiser un tel événement, parce que bon, il y a l'association, SRA, et il y a également l'agence de voyage qui est partenaire. Dans l'association, elle a été créée il y a 14 ans ?
Non, l'association va avoir 30 ans l'année prochaine.
Créée par ?
Elle a été créée par 4 pompiers, 4 copains au départ, et ils faisaient de l'humanitaire au départ. Et ça a commencé quand ils faisaient des transports sur Sarajevo, tout ça, quand il y avait la guerre dans les Balkans.
Donc à l'origine, SRA, c'était pas pour ce type d'événement, c'était vraiment la solidarité pour l'ex-Yougoslavie.
Voilà, c'était des passionnés et de 4x4, de camions 4x4. Ils avaient racheté un camion de pompiers qu'ils avaient monté avec une cellule, etc. Et donc, ouais, ils sont mis comme ça. Et comme il faisait partie, il venait un peu au raid de l'amitié que je t'ai dit tout à l'heure, que je vous ai parlé tout à l'heure, donc où il y avait le sud et le nord,
et le nord.
Qui se mettaient ensemble pour pouvoir organiser ça. Donc tout naturellement, c'est devenu une partie logistique. On a commencé à faire la logistique de raid. Mais on a gardé quand même notre entité première, c'est-à-dire de faire de l'humanitaire.
Alors, une petite parenthèse justement entre le sud et le nord, on en a parlé effectivement tout à l'heure. Le nord, il continue à faire le rallye ?
Oui, oui.
Vous avez des relations un petit peu ou mais vraiment plus du tout ?
C'est assez tendu depuis une quinzaine d'années quand même. Bon, on a rien contre eux, mais bon, voilà, chacun fait sa vie.
Chacun fait sa vie.
Ouais.
Alors, on revient au sud avec le SRA de Mazan. Combien d'adhérents ?
Alors, on peut dire une petite centaine. Petite centaine, oui.
Et tous participent activement à l'organisation du raid ?
Non, pas tous, parce que bon, tout le monde ne peut pas être disponible pendant 3 semaines, parce qu'il faut quand même 3 semaines, on part presque 3 semaines. Hein. On embarque le 25 et on revient le 14 mai, alors tu vois un peu. Il faut quand même pouvoir avoir des congés et disposer de.
C'est vrai que 25 avril, 14 mai, ça fait.
C'est bon pour les retraités.
Bon, ben ça, voilà. Ça, c'est le voyage. Mais en amont, ça fait déjà un mois et demi qu'on prépare les remorques, les camions et tout le chargement qu'on.
Mais vous stockez ça où, Amazon ?
Oui, au siège, c'est-à-dire au 2922, l'avenue de Saint-Pierre-de-Vassol, chez le président, qui était.
Donc Yves Chaumard ?
Et Yves Chaumard, qui était agriculteur, retraité maintenant, qui a eu toujours la passion des 4x4. Il a eu, comme je le disais précédemment, fait des virées vers Dakar en descendant les 404, comme tout le monde faisait, et remonté en avion. Ils ont fait partie. Donc il y avait un petit groupe de Mazanais, qui est, je crois une quinzaine, qui descendait des voitures et qui remontait. Tout naturellement, ils se sont greffés en faisant le raid d'amitié. Et puis après, tout naturellement, on a créé notre propre raid.
Alors comment ça se passe pour... On peut adhérer à l'association ou il faut être coopté? Comment ça se passe?
Alors, il faut être coopté. Ouais.
Parce que c'est vrai que c'est une association particulière. Ce n'est pas comme une association sportive traditionnelle.
Il faut être coopté et faire ses preuves, déjà pour commencer. Donc, faire acte de candidature et après, après il y a un conseil d'administration qui décide si tu, on te prend ou si on ne te prend pas.
Parce que c'est un engagement important. Parce que ben, derrière ça, il y a la sécurité de plus de 200 concurrents, par exemple.
Il n'y a pas que ça. Mmh. Toute l'année, on fait plusieurs assistances. On a fait le travail du Ventoux il n'y a pas longtemps. On était une trentaine de membres. On a assuré la partie signaleur et sécurité du travail du Ventoux de Serge Jolin.
Ah oui, donc vous avez quand même beaucoup d'actions aussi en France et sur le territoire du comté de Venessin.
On donne un gros coup de main à notre frère de cœur au motoclub. Parce que là, il y a beaucoup de membres qui sont issus des deux clubs, quoi. Donc, quand ils ont besoin pour les endurances de signaleurs, de commissaires, de 4x4, donc on donne un coup de main là aussi. La course de la solidarité, on est un maillon important de la sécurité. Je crois que tous ceux qui ne partent pas, ben, je ne dirais pas qu'ils sont punis, mais ils vont le 1er mai donner un coup de main.
Alors, justement, on va faire une petite parenthèse, que c'est vraiment une course importante, hein. Comme tu le disais, course de la solidarité, elle ne porte pas son nom pour rien. Donc, en fait, c'est le 1er mai. Comment ça s'organise? Et vous récupérez un peu d'argent et alors, vous l'utilisez à quoi?
C'est une course pédestre qui est inscrite au calendrier des courses hors stade de CDCH 84, comme toutes les courses qui se font dans le Vaucluse et qui sont obligatoirement inscrites. Donc, c'est une course de 12 km en pleine nature. Le circuit a été créé par Serge Jolin l'an dernier, un nouveau circuit qui passe à travers les vergers, les oliviers, les cultures, et il saute les valas, les murets, etc.
C'est un petit trail, quoi.
Un petit trail. Les gens sont venus ravis de chez ravis. Donc, l'an dernier, le temps ne nous a pas permis vraiment d'avoir beaucoup de monde parce qu'il a fait vraiment froid. Cette année, on attend vraiment une participation importante.
En moyenne, combien?
On tourne autour de 300, 400.
Ah oui, c'est déjà pas mal.
Ouais. Oui, parce qu'il y a deux courses, il y a la 5 km et 12 km.
Et pourquoi course de la solidarité?
Alors, parce que tous les bénéfices qui sont engendrés par cette manifestation sont reversés aux associations caritatives dont les antennes sont mazanaises, comme Terre d'Enfants, etc. Enfin, les Restos du Cœur, etc., qui tiennent des stands ce jour-là, propose des fraises, des produits de saison. Donc tous les bénéfices engendrés par cette course sont reversés aux associations présentes. Donc, l'an dernier, elles sont parties avec un chèque de 310 euros, je crois.
Oui, c'est bien. Donc, franchement, c'est...
10 associations, c'est bien.
Ah oui, tout à fait, oui.
Donc, voilà.
Bon, mais écoute, on a appris beaucoup sur l'association. On fait la dernière pause musicale de la soirée et après, on parlera justement de ce raid des suricates.
Guiding light.
Parlons Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc nous sommes déjà arrivés sur la dernière partie de l'émission. Alors, juste avant de parler du raid et Suricate, pour en revenir à l'association, François, comment ça se passe? Donc, juste pour terminer la question de comment adhérer, etc. Donc, être coopté, être validé. Mais il faut posséder son propre véhicule?
Non, tu n'es pas obligé de posséder ton véhicule. Tu peux venir en tant que chauffeur. Il y en a des fourgons, donc il faut bien des chauffeurs pour mettre derrière le volant des fourgons. Il faut des 4x4, mais il faut des chauffeurs aussi. Donc, et puis, il faut des gens pour tenir la buvette, il faut des gens pour la manutention, il faut
voilà,
des
gens compétents. Il y a tous les corps de métier.
Ben oui, on a des ostéopathes, on a des médecins, parce qu'on a des médecins, des infirmières urgentistes. C'est une grosse machine.
Il y a une question qu'on n'a pas posée. C'est le prix pour une personne de s'engager dans un rallye comme ça.
Alors, j'ai...
Je parle de l'inconnu,
c'est
lambda.
C'est marqué sur le site, mais sans dire une bêtise, je crois que c'est 1600 ou 1700 euros pour un motard.
Tout compris.
Et en demi-pension, oui.
En tout compris, donc le voyage.
Hors avion.
Ah, hors avion.
Parce qu'après, voilà, hors avion.
Non, c'est correct.
Oui, ça reste raisonnable.
Et pour,
parce qu'il bénéficie
4x4,
de
c'est 2005, je crois. Parce qu'il y a le transport bateau, machin. C'est, ça, c'est
et c'est
pareil.
Par véhicule ou par personne?
La personne, c'est 900 euros dans ces eaux-là, un passager.
Ah oui.
Mais oui, tu es en demi-pension pendant 10 jours.
Non, mais il parle sans le mot, c'est le passager de la voiture, ouais. Par exemple. Mais le motard, lui, c'est
1600 et quelques.
La moto et lui.
Ouais, je crois dans ces eaux-là. Mais il faut regarder, j'ai pas les chiffres, c'est pas ma partie. Ça.
Et par contre, c'est vrai que je les ai vus à plusieurs reprises, par exemple lors du forum des associations de Mazan, de la fête du sport. Et il y a un truc qui m'a impressionné, c'est l'attente sur la voiture.
Ah ben oui, on est comme des escargots, on a notre maison sur le dos. Ça s'appelle des tentes de toit qui se déplient et on dort sur le toit de la voiture. Ouais.
Ah, c'est impressionnant. Si vous n'avez jamais vu ça, c'est vraiment l'occasion de...
C'est hyper top, hein, je te signale. Parce que,
ça doit être confortable.
Un matelas en mousse, on a la couette et tout. Hein, c'est impeccable.
C'est pratique en plus.
C'est vite pratique, plié, vite déplié.
Ah oui, c'est sur vérin. Ouais. C'est monstrueux.
C'est le grand confort pour dormir. On peut se reposer de la journée.
C'est les Italiens qui ont inventé ça. C'était des Maggiolina. On appelait ça Maggiolina.
Bon.
Au départ. Après, les autres ont inventé un concept différent, mais les premiers, c'était eux, les Italiens.
Tu parlais, Valérie, d'une question qu'on n'avait pas posée. Il y en a une autre qu'on n'a pas posée. La parité homme-femme.
Ouais. Alors, au niveau des motards, on a très peu de femmes motards. Je crois qu'on en a à chaque fois 2 ou 3 sur 45 motos. Donc ça, en SSV, c'est toujours la copilote. Je crois qu'on a 1 ou 2 équipages féminins. En voiture aussi, pareil. 2 ou 3 équipages.
Et c'est souvent le mari et la femme, enfin, ou les conjoints?
Là, c'est des fois 2 femmes.
Ah ouais.
2 femmes qui viennent.
C'est un peu comme le rallye des gazelles.
Là, cette année, on a par exemple une voiture où il y a 4 personnes. Ils viennent en famille.
Ah oui, c'est bien ça.
Bah oui, ça leur fait des vacances.
Il y en a un qui pilote, un qui fait le roadbook et les 2 autres qui photographient.
À tour de rôle, tu tournes
ouais,
devant.
Oui, par exemple.
Mais oui.
Non, mais ça fait aussi l'occasion d'avoir de bonnes vacances
enfants,
mémorables.
On a eu des enfants aussi.
Des vacances mémorables.
Ils viennent avec leurs enfants.
Et cette année, vous en avez des enfants?
On a des ados.
Des ados.
T'as oublié de parler de quelque chose aussi, de l'hélicoptère.
Ah oui, alors... On a demandé au roi de nous fournir un hélicoptère pour les épreuves de sable. Apparemment, on a une réponse positive. Donc le roi met à notre disposition, pendant 4 étapes de sable, un hélicoptère.
Et le rôle de l'hélicoptère?
Ben, ça sera la surveillance et puis surtout les interventions médicales dans les dunes. C'est un peu plus compliqué.
Parce que sans hélicoptère, c'est la voiture.
La voiture ou le SSV, ouais. On avait prévu un SSV cette année, comme on ne savait pas la réponse. Un SSV avec un médical dedans, ouais.
Mais il y aura quand même un SSV en soutien ou pas forcément?
Non, parce que l'hélicoptère se posera partout.
Il se pose partout?
Ben oui.
Ah, c'est bien ça.
Eh ouais.
Alors justement, maintenant, dernière partie, justement, la première édition du rallye des Suricates. Pourquoi avoir créé ce rallye et est-ce que c'est vous qui l'organisez?
Alors, On a créé parce qu'on s'est aperçu en fin décembre, on est allé faire une assistance de rallye en Algérie, un rallye organisé par la FFIA, la compétition. Et donc, on transportait des motos ce jour-là, et ça fait pas cette semaine-là, et on s'est aperçu qu'il y avait une demande, une forte demande et un potentiel. Et on a été sollicité par les autorités algériennes pour,
plus près du micro.
Pour organiser des épreuves là-bas. Donc,
un fort potentiel, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une demande pour aller en Algérie.
Ouais. Il faut savoir que c'est un pays qui est...
Mais de la part des concurrents ou de la part des autorités locales ?
Des deux parties. Donc, les autorités locales souhaitent ouvrir leur pays davantage à ce genre de compétition et au ce genre de tourisme, parce qu'ils ont bien compris que c'était quand même une manne assez importante. Et tous les aventuriers qui commencent à en avoir un peu... sont un peu lassés des territoires connus,
et oui,
veulent découvrir autre chose. Voilà. Mmh. J'ai pas dit le Maroc, j'ai dit les territoires connus. Mmh. Et comme... La configuration géopolitique n'est pas favorable à aller dans d'autres pays. La Libye, c'est fini. L'Égypte, c'est pas trop top. La Tunisie...
Ben, l'Algérie a besoin de remonter aussi. Parce que bon, ils ont été longtemps dans ces fameux pays, comme tu dis. Il ne fallait pas côtoyer.
Il y a un gros effort du gouvernement algérien, notamment de la sécurité, de l'armée, etc., qui encadre ces épreuves, mais d'une façon...
Et si ça marche, ça serait amené à remplacer le rallye du Maroc ou non ?
Non, ce serait un deuxième. Comme ça va se passer du 20 janvier au 2 février.
Donc 2019 ?
2019, ce serait de Suricat. Ça n'empiète pas sur le futur rallye Raid Passion Désert numéro 15.
C'est ta femme qui va être contente ? Parce que non seulement tu vas aller donc vérifier...
Mais là, elle venait chaque fois avec moi. Hein. Oui, ça fait 2 ou 3 ans qu'elle ne vient pas parce qu'elle a des problèmes de santé, oui. Notamment de ses genoux. Et
donc,
elle compte bien...
Tu vas t'absenter 2 fois, là.
Elle compte bien venir avec moi parce qu'elle va être à la retraite
bientôt.
Ah bon,
on espère bien. Parce que...
Oui, parce que là, sinon, ça fait 2 fois pour faire les... Comment on appelle ça ? Les contrôles.
Les reconnaissances.
Les reconnaissances. Et 2 fois pour aller après sur la course.
Ben là, ils partent après le Raid Passion Désert, on rentre là et ils partent faire les recours du Suricat, je crois le 25 ou 24 mai.
Donc l'organisation sera la même. Alors par contre, le départ se fera d'où cette fois-ci ?
Alors ça se fera de...
Marseille.
On prend un bateau à Marseille, Marseille-Alger. Et après, la première étape, c'est Alger-Djelfa, etc. etc.
Et là,
on est parti pour 14 jours.
Et la distance est la même ? Parce qu'au Maroc, je crois que c'est plus de 2000 km, hein, c'est ça ?
2276, exactement. Voilà.
Et
il y a presque 80% de pistes.
Et pour l'Algérie, ça sera pareil ?
Ouais, ça sera sensiblement pareil, oui.
Le concept sera le même ?
D'ailleurs, on est co-organisateur avec une autre association, une agence de voyage, qui s'appelle ProRaid. Ils viennent d'organiser le Raid des 205, je ne sais pas si tu as vu, sur Facebook.
Donc, vous allez le faire ensemble ?
On le fait ensemble, avec Owaka aussi, qui est un partenaire, fournit des balises. Donc, on est 3.
Et donc, pour participer, il faudra passer par la même agence de voyage ?
Non, par l'agence ProRaid.
ProRaid.
C'est une agence de voyage.
Et donc ProRaid.
Il faut savoir que Sud-SP s'arrête, normalement.
Ah bon ?
Oui, ça fait 30 ans et le patron de Sud-SP prend sa retraite et je crois que c'est son dernier raid qu'il fait avec nous. Là.
Et donc, vous avez pour l'instant une autre agence qui va se positionner ou pas forcément encore ?
Pour l'instant, on ne sait pas.
Pour l'instant, vous ne savez pas ?
Non.
Donc là, le rallye, le début janvier, le combien ? 24 ?
Non, la première étape, c'est le 20 janvier. Et retour le 2 février à Marseille.
Et au niveau des véhicules concernés, il y aura les mêmes véhicules ?
Moto, SSV, 4x4.
Et j'ai vu aussi qu'il y avait des quads.
Ouais. Et c'est en voie de disparition, les quads.
Ah oui ?
Ça va devenir plus que des quads agricoles. Hein. C'est plus de mode. Hein. C'est des SSV maintenant.
Donc, quad, c'est marqué, mais il n'y en a pas forcément.
Ouais, voilà,
et pour le rallye au Maroc aussi, il y a des quads
On en a point.
Mais ils avaient possibilité.
Oui, l'année dernière, il y en avait un et je crois 17 SSV. Cette année, il n'y en a pas de quad. Pas du tout.
Et est-ce qu'il y aura possibilité, pas parler forcément de ce raid des Suricates, mais pour le prochain raid qui va débuter dans 3 jours, la possibilité de suivre les concurrents sur Internet ?
Oui, alors, tu verras sur le carnet de route que je t'ai Sur le site de Owaka, tu dois pouvoir, il y a un lien sur lequel tu vois les concurrents évoluer.
Bon, on mettra sur le Facebook et sur la
le podcast. Je dirai ça hors antenne.
Ouais. Il n'y a pas de souci. Mais écoute, merci beaucoup François d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir parlé de ce magnifique raid, de ces magnifiques raids, de l'opération vélo. Hein. Donc j'encourage vraiment tous les auditeurs à prendre contact avec l'association, on mettra les coordonnées. On te souhaite bonne chance pour ce voyage. Et puis on aura l'occasion de faire un duplex téléphonique le 7 mai. Aux alentours de 19h45, heure française, bien entendu, il y a une heure de décalage.
Ouais. Je te coupe juste, le raid de janvier, il sera aussi humanitaire ?
Puisque c'est... En général, dans toutes les voitures...
Il y aura quelque chose.
Il y a toujours quelque chose. On a toujours ou des crayons de couleur, ou des trousses, ou des sacs à dos. On fait toujours une partie, ou des vêtements qu'on met toujours dans un coin.
C'est pour ça.
Non, mais tu as bien raison de le préciser. Donc, le duplex téléphonique, on le fera d'Air Food. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, une petite pause, hein, ce sont les vacances. On se retrouve donc le 7 mai avec François Richie et d'autres associations. Merci mon petit Alexandre, merci.
Merci à toi.
Valérie, merci Bruno et bonne semaine sportive et bonnes vacances si vous êtes en vacances.
Au revoir. Et merci de m'avoir accueilli. Bonsoir.
Winning on my mama, that's the realest shit. Let's talk about love.